Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec aujourd'hui Agnès Benassi-Quéré, sous-gouverneur de la Banque de France, professeur à l'École d'économie de Paris et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sylvie Matera, senior advisor du cabinet de conseil d'audit Mazars. Romain Rivaton, directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Il a publié « Sourions, nous sommes filmés » aux éditions Alpha. Pas mal de réactions sur ces histoires-là. L'État cherche 10 milliards en réduisant des fonds, notamment liés à l'espace ou la recherche, et il a augmenté les retraites de 15 milliards il y a un mois et demi. Bon. Voilà. Ça vous fait réagir, ça, Romain? Il y a plein de gens qui considèrent que 5,3% de réindexation des retraites automatiques pour tous, c'était trop.
Moi, je suis totalement dans cette ligne-là. On fait encore un choix en défaveur du futur et en faveur du présent.
Il y a Adado. C'est un vrai scandale, cette économie de 10 milliards d'euros. Romain a raison, on ne va pas échapper à une hausse d'impôts et l'immobilier a déjà commencé à trinquer. C'est grotesque, ce plan sur une feuille A4 pondue par un haut fonctionnaire. C'est sévère, mais enfin, faut reconnaître que c'était pas très inventif, hein, à la sortie de Bruno Le Maire, 5 milliards de fonctionnement, 5 milliards de politique publique.
Mais d'un autre côté, les hausses d'impôts... C'est un peu compliqué aussi d'augmenter les impôts.
Mais quand on est
au niveau auquel on est, c'est un petit peu difficile aussi. Donc, il faut bien voir qu'on va arriver à un moment où il n'y a pas tellement d'autres solutions et que les solutions qui ont été proposées sont des solutions qui ne sont pas des solutions structurelles, qui ne sont pas de long terme. Mais ce qui est dommage, c'est que finalement, on n'est plus que ça. Ouais.
Et alors, du coup, Éric Ciotti nous ressort l'idée de la TVA sociale. Alors, ce qui est marrant, c'est de se souvenir qu'on l'a voté en 2012 sous Nicolas Sarkozy. Et là, on devait passer de 19,6% de TVA à 21,2%. Ça faisait 13,2 milliards de cotisations patronales qu'on allait retirer pour alléger le coût du travail et basculer une partie du financement de la protection sociale tout simplement vers l'impôt. François Hollande devient président et il va supprimer la mesure qui devait entrer en vigueur en octobre 2012. Donc, elle est votée et n'existera jamais. Et c'est vous qui avez parlé de TVA souvent, Romain Rivaton, en disant qu'il y a un moment, on sait très bien que les impôts efficaces sont les impôts à assiette large et à taux bas. On en a deux, la CSG, la TVA. Un point de TVA, je crois qu'on est dans les 11 milliards d'euros, un truc comme ça. Donc, ça vous inspire quoi, l'idée d'alléger le coût du travail, quitter un peu le modèle bismarckien pour aller vers un peu de beveridgien?
Malheureusement, je ne sais pas si on pourra s'en servir pour alléger le coût du travail. Je pense que malheureusement, on s'en servira pour éponger les déficits, mais je pense que c'est...
Si on retire 10, 12, 13, 14 milliards de...
Oui, mais je pense que ce qui nous arrive en 2026-2027, nos partenaires européens et les marchés n'accepteront pas très longtemps qu'on ait ce niveau de déficit. Donc, de toute façon, il va falloir réduire les déficits. Et donc, la collecte de l'impôt supplémentaire, la seule solution sera la collecte de l'impôt supplémentaire, puisqu'on n'a pas du tout de majorité qui est capable aujourd'hui de trouver une voie pour faire des réformes structurelles. On en a parlé, que ce soit de la baisse des dépenses ou de l'augmentation de la productivité au sein de la sphère publique en général. Et donc, aller chercher la TVA sur deux aspects, hein. La TVA, le mitage de la TVA. On a la TVA la plus mitée d'Europe. Mitée, c'est-à-dire qu'il y a des exceptions à la TVA partout.
Vraie exception, c'est la 2,1% sur les médocs et la presse.
Sur les taux. Mais après, on a les taux, on les distribue à plein de secteurs économiques. Il y a plein d'études microéconomiques qui ont montré que ce sont des aides directes aux producteurs sur un marché concurrentiel, des TVA à taux réduits. Ça va dans la poche du producteur, pas dans la poche du consommateur. On peut en débattre, on peut regarder secteur par secteur, mais ça a été prouvé. On continue de faire des exonérations. Hein, dernier PLF, on a eu les Ponex, les centres équestres et Ponex sont passés à une TVA à taux réduit, vraiment une mesure qui semblait absolument nécessaire pour la relance du pays.
C'est lunaire, les taux de TVA, quand on regarde en fonction des... Je vous disais en antenne, la tablette de chocolat, c'est plus élevé en TVA que le chocolat individuel.
Mais une fois que vous avez des exceptions totalement lunaires, n'importe quel secteur normalement constitué, organisé, va voir son représentant syndical et lui dit pourquoi nous, on n'a pas la TVA à taux réduit. C'est de la microéconomie, là aussi, la plus basique. Donc, mettre fin au mitage de la TVA, qui est assez invisible, et puis après, augmenter les taux. C'est un peu le seul impôt où on est un peu en dessous de la moyenne européenne.
C'est vrai.
On a un petit peu de marge. Et puis, on peut aller jusqu'au taquet, 25.
Donc, moi, ça fait des années que je dis, vu notre modèle social... On devrait être...
Mais par contre, moi, je ne pense pas que ce sera une compensation. Je pense que ça nous permettra juste de passer, grosso modo...
Donc ce sera de la TVA, mais pas sociale, de la TVA.
Pour financer le déficit public.
Parlons net, quand vous dites d'émiter la TVA, ça veut dire augmenter des taux à taux réduit pour les remettre à des niveaux normaux, ce qui fait que vous allez faire hurler le pays entier.
Ça me paraît. Encore une fois, au bout d'un moment, on peut essayer de se dire qu'on veut subventionner toutes les activités de ce pays, mais il faut un moment qu'on soit un peu sérieux et réaliste.
Non, ouais. La TVA, même pas sociale. Sylvie Matera, vous êtes d'accord sur la TVA ou la TVA sociale?
Non, je suis d'accord.
Robin, il fait le tableau, il n'y aura même pas de compensation.
Ça, je ne sais pas s'il n'y aura pas de compensation. D'abord, première chose, c'est un des rares domaines où on est un petit peu en dessous de ce qui existe en Europe. Oui. Hein, la TVA en Espagne, elle est de 21%, en Italie, elle est de 22%, chez nous, elle est de 20%. Les exemples que Robin vient de donner prouvent que là encore, on devrait simplifier. Enfin, ça n'a aucun sens d'avoir des exemptions telles qu'on a aujourd'hui. Agnès me disait avant de rentrer, quand on achète un pot de fleurs, la TVA sur le pot est différente de la TVA sur les fleurs. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, déjà, si on pouvait unifier un petit peu ce traitement, ça serait quand même une simplification bienvenue. Après, la TVA sociale, alors... Bon, il y a quand même, on est en période d'inflation, augmenter la TVA a un impact direct sur les prix. Hein. Ah, oui. Donc, puisque vous augmentez tout simplement les prix. Donc, c'est peut-être pas non plus le meilleur moment pour mettre ça en place.
La CSG, ça n'a pas d'impact sur les prix.
Alors, est-ce qu'il faut mettre ça, est-ce que ça compenserait les... En fait, parce que le principe de la TVA sociale, c'est de compenser, de baisser les cotisations que payent les entreprises et les employés et de le remplacer par un impôt sur les consommateurs. Oui. Donc c'est ça l'idée. Et Robin dit non, en fait on va garder les deux parce que c'est vrai que les impôts directs, il y a plus de marge de manœuvre, et puis la seule solution, c'est de taper sur quelque chose où on n'a pas grand chose, on peut pas protester. De toute façon, effectivement, ce sera facile de dire que la TVA, le taux normal, est inférieur encore à ce qui existe à d'autres pays européens. Mais je suis pas sûre que le moment soit bien choisi en période où on finit de lutter contre l'inflation. Tout le monde se plaint que la vie quotidienne est devenue plus difficile, que les prix ont augmenté, une augmentation de la TVA, à mon avis, serait super mal perçue.
Je ne vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir aller expliquer que ce n'est pas totalement injuste.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par enlever les exceptions qui n'ont aucun sens ?
Mais c'est pareil, si vous enlevez des exceptions, il y a des zones où vous remettez la TVA à un niveau normal, et ces zones-là, on va vous dire, vous avez monté la TVA. On a quoi ? On a du 10, du 5,5 ?
2,1, 5,5, 10...
Je ne crois pas qu'on est entre 10 et 20.
Je crois qu'on a 4, mais...
On a droit qu'à deux taux intermédiaires, normalement. Et nous, on nous a laissé le 2,1 sur la presse et les médicaments.
Les exemptions aussi.
Si tu décides de mettre le 5,5 à 20, on va dire que c'est une hausse de TVA pour tout ce qui est quoi. Alors, je n'ai pas ressorti la liste de tout ce qui est à 5,5, tout ce qui est à 10. Bon, Agnès, par rapport à ce qu'on vient de se dire.
Alors, je vais revenir sur la TVA sociale.
Sociale.
Donc, l'idée de baisser les cotisations sociales et d'augmenter la TVA. Donc, comme une mesure, en fait, c'est comme une dévaluation à court terme, puisque ça va permettre de imposer les importations en allégeant, du coup, la fiscalité, enfin, les contributions dans la production nationale. Mais. C'est transitoire, puisque ensuite, comme le pouvoir d'achat diminue, eh bien, il y aura des compensations avec des hausses de salaire. Et donc, à la fin, ce gain comme dans une dévaluation.
Je ne vous ai pas suivi, attendez. Le pouvoir d'achat diminuera.
Oui, puisque la TVA augmente.
L'idée, c'est quand même à l'arrivée aussi qu'il y ait moins de charges sur le salaire pour que peut-être que le salaire net augmente.
Si la TVA augmente, les prix vont augmenter.
Oui.
Et donc, pour un salaire donné, le pouvoir d'achat du salaire va diminuer.
Ah, vous partez du principe que quoi qu'il arrive, à l'arrivée, le pouvoir d'achat sera clignoté.
Non, mais attendez, je n'ai pas fini. Parce que les salariés vont obtenir des hausses de salaire. De toute façon, il y a des salaires, le SMIC est indexé, donc de toute façon, lui, il augmentera automatiquement.
Ah oui, d'accord. Oui,
voilà. Bonjour. Et donc, à la fin, ce que disent les économistes, c'est que c'est neutre à long terme, comme une dévaluation qui fait gagner temporairement.
Ouais.
Bon, alors ça, c'est vrai, sauf que la France a aussi un problème de déficit commercial. Et donc, en fait, ça veut dire que les importations sont plus importantes que les exportations. Du coup, il y a un petit gain quand même à long terme, parce que à cause de ce déficit initial, de même qu'une dévaluation peut avoir un impact, disons, durable sur la compétitivité, eh bien, une TVA sociale pourra avoir un impact durable sur la compétitivité pour un pays qui part d'une situation de déficit.
On peut partir du principe que la TVA... Alors, moi, l'idée de la TVA sociale qui tape le produit importé, j'ai jamais vraiment été convaincu. Vous êtes convaincu par ça ?
À court terme, c'est mécanique. Simplement, à long terme, ça, c'est payé comme c'est payé par les salariés quand ils achètent leurs produits dans les magasins. Les salaires s'ajustent.
Je suis d'accord, mais est-ce que si on avait justement une TVA sociale qui va donc impacter les produits importés, est-ce qu'à terme ça peut modifier le déséquilibre du commerce extérieur ? Parce qu'on importe des produits que nous ne fabriquons plus, et s'ils sont plus chers, on va continuer à les importer plus chers.
Oui, enfin, donc il y a effectivement, il y a une équation entre compétitivité et pouvoir d'achat qu'il faudrait résoudre. Hein, on ne peut pas avoir et le gain de compétitivité et le gain de pouvoir d'achat.
C'était comme crédit d'impôt, compétitivité, emploi. On ne pouvait pas avoir emploi et compétitivité en même temps. Et CSG, du coup, Agnès, c'est pas juste. Est-ce que CSG, on n'évite pas l'accusation d'injustice et on évite l'effet inflationniste?
Alors, le débat sur la CSG, c'est que sociale, elle n'est pas tellement progressive, même si elle l'est un peu maintenant.
D'accord.
Elle n'est pas tellement progressive. Alors, on pourrait aussi imaginer un système fiscal, disons, plus proche des systèmes qu'on peut voir dans d'autres pays, où on a un impôt qui est moins progressif, mais des transferts qui le sont beaucoup plus. On a déjà des transferts extrêmement progressifs en France, et en plus, on a un impôt qui est progressif. On peut basculer de l'un vers l'autre. Mais enfin, le gros sujet, c'est quand même la progressivité d'ensemble du système fiscal et de transfert.
Alors certains ont imaginé que la CSG pourrait devenir progressive, justement, alors qu'aujourd'hui, elle est proportionnelle. Ce qui est d'ailleurs tout à fait... On est traumatisé par les impôts, vous le disiez, hein, Sylvie Matera, le ras-le-bol fiscal, toute cette histoire. C'était 2013, Pierre Moscovici, à l'époque, qui était au gouvernement. Et quand on regarde notre impôt sur le revenu, notre impôt sur le revenu, en fait, il y a très peu de gens qui le payent, et il rapporte que 3,3% du PIB. Dans un pays normal, qui a un impôt sur le revenu normal qui fonctionne bien, il rapporte 9% du PIB. En fait, il est mal perçu, très mal vécu par ceux qui le payent, il rapporte très peu.
Oui, donc c'est le prototype d'un impôt qui n'est pas efficace.
Voilà. Vous voulez cocher les cases du mauvais impôt.
Mais c'est pour ça qu'il faut absolument des réformes structurelles. Et la fiscalité, c'est un super candidat, mais alors là, ça devrait... C'est très... à mon avis, très très compliqué. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a un moment, il faut arriver à toucher dans le structurel, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Et cet exemple de l'IRPP, qui est un impôt qui n'est pas efficace, en fait, parce qu'il est très mal perçu, et en fait, il ne rapporte rien, donc c'est bête. Il faut vraiment toucher à la structure de la fiscalité. Mais ça, je suis un peu sceptique sur le dirigeant politique qui osera s'attaquer à ça.
T'imagines le gars qui dit bon, je supprime l'IRPP qui fonctionne pas bien, je mets tout sur la TVA à 25. Alors là, c'est le wouah. faut reconnaître que celui qui vous dit que monter la TVA c'est injuste, il a raison.
Ben, ça frappe tout le monde. Enfin, le consommateur.
Le riche comme le pauvre, il paye la même TVA sur le même produit. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas d'argument pour dire que la TVA n'a pas un côté injuste.
D'ailleurs, je vois là où on a un problème aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'on a des au-delà de la consommation, on a des problèmes sur l'épargne. On a aujourd'hui un taux d'épargne chez les plus de 70 ans qui est monté à 27%, ce qui est absolument...
On est à 27%.
C'est lunaire. Les dernières statistiques sont absolument effrayantes. Et donc, vous avez, le sujet n'est pas que la consommation. C'est-à-dire qu'on peut essayer d'attraper une partie de la consommation qui serait de la surconsommation des ménages aisés, mais en fait, il y a une surépargne. Donc, en fait, il faut taper dans les deux tuyaux. Sinon,
vous dites épargne, vous mettez patrimoine.
Si vous laissez grosso modo des gens dire on va vous taxer sur la partie consommation, mais on vous laisse épargner très très facilement, vous allez avoir des inégalités de patrimoine qui vont se créer à long terme, donc c'est pas satisfaisant non plus.
Waouh. Bon. Agnès, prenez la parole librement, Agnès, si vous voulez.
Une partie de cette épargne, si c'est de la consommation différée, sera taxée in fine. Oui. Sauf si les gens anticipent que la TVA va disparaître, ce qui n'est pas vraiment.
Non, c'est pas dans l'air du tout.
On fait un peu d'économie-fiction. La TVA ne va pas. Enfin, non, on va pas faire disparaître l'IRPP pour monter la TVA. Personne n'osera la mettre à 25%. On a beaucoup trop une sorte de culture communiste égalitariste dans notre pays pour imaginer aller jusque-là. Ça n'arrivera pas. Hein. Agnès.
On parlait des taux réduits tout à l'heure. Les taux réduits sont aussi une source d'inéquité, puisque on fait des taux réduits aussi sur des produits de base pour aider les ménages modestes. Mais en fait, les ménages riches en profitent encore plus que les ménages modestes, puisqu'ils ont plus de consommation. Donc voilà, il y a des systèmes avec des taux de TVA 25% pour tout le monde, mais avec des transferts plus généreux pour les ménages modestes.
Et ça, c'est structurel.
Ça, c'est structurel. Voilà.
Aller chercher des logements avec les dents. Alors, j'ai pensé à vous, Robert Rivaton, en écoutant le discours de politique générale de Gabriel Attal, parce qu'il a quand même parlé du logement. Habituellement, on n'en parle pas. Alors, on a attendu, c'est vrai, pendant pratiquement un mois qu'il soit incarné. Mais il veut simplifier les normes, réviser le DPE, ça y est, le chantier est ouvert. Réviser les modes d'accès à MaPrimeRénov', bon, permettre plus de densification, accélérer les procédures à l'image de ce qui a été. En fait, la stratégie JO, on va la faire au niveau d'une vingtaine ou une trentaine de territoires. Pouvoir réquisitionner des bâtiments vides. Donc, 20 territoires, pour lesquels les procédures seront accélérées, inclure les logements intermédiaires au même titre que les logements sociaux dans la loi SRU pour essayer d'aider les collectivités qui n'arrivent pas au bon niveau de logements sociaux. Ça a fait beaucoup réagir des associations type l'Abbé Pierre. Rendre les maires responsables de l'attribution de ces nouveaux logements sociaux. Il y a eu des choses. Et aller chercher les logements avec les dents, pour moi, ça fait un peu incantatoire, quoi. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, c'est votre spécialité, mais...
Non, mais déjà, c'est bien que le sujet soit mis sur la table. On avait l'impression,
oui,
on avait l'impression qu'il y avait une sorte d'absolu désintérêt pour le problème, qui est un problème réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vers une baisse très forte de la production de logements. Les statistiques sont tombées ce matin. Donc, on a à moins 20% sur 2023 par rapport à l'étiage de 2000, on va dire, pré-Covid. Je ne prends pas les années Covid, mais on est à moins 20%. Et ce n'est que le début, c'est-à-dire que l'année prochaine, on va vers une baisse qui va être relativement similaire.
On parle de moins de 250 000 logements.
On fait 377 autorisations d'urbanisme sur 2023. Encore une fois, les chiffres sont tombés juste avant l'émission. Je pense qu'on peut tomber en dessous de 300 000 en 2024. Il faut bien voir que ça a des effets de long terme. On lance la construction d'un programme neuf quand on a une certitude sur la demande, et quand il n'y a pas de certitude sur la demande, on ne lance pas ce programme. Et donc
sujet
les effets,
c'est
les
sujets.
Exactement. Et les effets se voient dans le futur. C'est-à-dire que c'est pas la photographie ne révèle pas toujours l'ampleur du problème. Les mesures proposées par Gabriel Attal, les mesures dites de soutien aux maires, on va dire, qui permettent de faire rentrer une partie de logements intermédiaires. Il a dit une partie. J'ai réécouté le DPG, il a dit une partie des LLI qui rentrerait dans le quota de la loi SRU.
Discours de politique générale, le DPG.
Discours de politique générale. Donc, qui permettrait de dire que si vous n'atteignez pas les 25% un peu magiques de la loi SRU, vous pouvez, grosso modo, prendre une partie du logement intermédiaire qui est dans votre commune. Le logement intermédiaire, c'est un logement qui est ouvert à une plus grande partie de la population, pour faire très simple, avec des loyers régulés. Et l'autre mesure qui est de dire aux maires, vous pouvez désormais attribuer ces logements, vous aurez une première attribution. Aujourd'hui, la première attribution, elle est très largement occupée par les préfectures qui doivent affecter ce qu'on appelle un quota DALO, donc droit opposable au logement.
Ah oui, le DALO.
Tous les gens qui n'ont pas de toit, et donc les préfectures les allouent d'office dans ces logements-là. Les maires, ça les rend très très frileux, parce que tout d'un coup, ils se retrouvent avec des populations qu'ils n'ont pas choisies sur leur territoire, et donc ils sont très hostiles à la construction de logements. Est-ce que ça va suffire pour que les maires se mettent à dire « je vais autoriser plein de logements à la construction » Non. Aujourd'hui, il y a un problème financier. Une commune, encore une fois, elle est gérée de manière extrêmement stricte. Elle doit être à l'équilibre entre ce but dans son dépense de fonctionnement. Et donc, si elle n'a pas une motivation financière à accueillir de nouvelles populations, elle n'en a pas envie. Les nouvelles populations, c'est des crèches, de l'école élémentaire, de la vidéoprotection, du CCAS, je vais vous faire la liste, mais ça coûte très très cher d'accueillir la nouvelle population. Et aujourd'hui, les mairies sont dans un état d'esprit très malthusien. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas à créer une incitation financière, les simples incitations qui ont été données ne suffiront pas. Ça, c'est un premier point. Et surtout, le volet JO, pour moi, c'est une vraie erreur d'analyse. En fait, on ne produit pas du logement comme on produit des infrastructures. Et les JO, c'est des infrastructures, c'est pas du logement. Il n'y a pas d'enquête publique quand vous construisez un immeuble de logement. Ce qui bloque aujourd'hui dans le logement, c'est des maires qui ont un pouvoir d'urbanisme infini. Et dès que vous avez un pouvoir infini, y a des problèmes. Il faut que le pouvoir d'urbanisme soit limité. Il faut qu'il soit au maire, mais limité. Le deuxième point, c'est les recours abusifs des tiers. Aujourd'hui, on a durci dans la commission Rebsamen.
Il y a eu des progrès dans le domaine.
Dans la loi Elan, dans la commission Rebsamen, on a durci la qualification. Si vous avez un recours dit abusif, vous pouvez avoir des conséquences très graves. Mais il n'y a aucun juge en France qui ne qualifie un recours d'abusif.
Ah, d'accord.
Donc, vous êtes à la séparation des pouvoirs. Vous avez dit, la loi est extrêmement dure. Le juge ne donne pas la qualification d'abusif. Voilà, vous avez un problème. Et le troisième point qui est un problème également, c'est le conservatisme ambiant, ce qu'on appelle NIMBY chez les anglo-saxons, Not in my backyard, qui fait qu'on a donné beaucoup de droits pour contester les projets d'intérêt généraux, mais pas que les logements, les center parks, les barrages, les autoroutes, tout est au sujet à la contestation, qu'elle soit violente ou non violente dans ce pays. Donc tout ça fait dire quand même que c'est bien, mais je pense pas qu'on a pris toutes les bonnes solutions.
Et j'ai juste un truc, c'est que j'ai souvent discuté de ça avec Guillaume Poitrinal, qui est très remonté sur le sujet, vous imaginez, lui il est promoteur immobilier en bois, et Sophie Sidos-Vicat, qui est propriétaire des ciments français Vicat, elle était assez radicale, parce que là c'est pareil, on va être sur la perspective court terme, on voit que aujourd'hui les promoteurs vous disent, moi j'ai plus de demandes, les ventes de logements neufs ont fait moins 52% au quatrième trimestre 2023, et donc j'arrête de lancer des nouveaux projets, parce que j'ai pas réussi à vendre ce que j'avais en stock. Et là, au-delà de déverrouiller la demande, Sophie Sidos-Vicat nous disait il faut arrêter le ZAN. En fait, encore une fois, les mesures qu'on a mises en place pour des raisons écologiques, on arrête le ZAN parce que c'est un tue-marché. Et même, on met entre parenthèses RE 2020. RE 2020, pardon.
Il y a trois mesures de transition environnementale appliquées aux bâtiments qui ont joué ces dernières années. Il y a le DPE. Sur le DPE, je pense qu'on prend enfin la bonne solution qui est d'exonérer les petites surfaces. Le mode de calcul du DPE pénaliser de manière absolument injuste les petites surfaces. Quand vous êtes dans une petite surface, que vous ayez un grand logement ou un petit logement, vous consommez la même quantité d'eau chaude pour vous laver.
On est d'accord.
Vous prenez une douche tous les jours. Donc de toute façon, vous avez la part de la consommation liée à l'eau chaude qui pénalise fortement votre logement. Donc il fallait une mesure qui remette. Donc ça, c'est en train d'être discuté. On est sur les logements de moins de 40 mètres carrés, donc c'est plutôt haut par rapport à ce qu'on aurait visé, mais c'est plutôt bien. Après, il y a le ZAN, effectivement. Moi, c'est une mesure.
Zéro artificialisation nette des sols.
Interdiction d'artificialiser les sols. Alors, ils ont 2050, mais qui est surinterprété, donc qui est en train d'apparaître dès aujourd'hui, alors que c'est un horizon 2050, c'est un vrai problème. Et après, il y a la RE 2020, la réglementation environnementale, qui a trois seuils, 22, 25 et 28.
Trois seuils d'exigence, ouais.
Et qui deviennent de plus en plus durs avec le temps pour construire des bâtiments qui soient non carbonés.
Agnès Benassi-Kiré, sur le logement, avant de dire un mot de Banque Centrale pour terminer.
Sur un zéro artificialisation, en fait, le logement collectif, hein, c'est ce dont on parle, c'est seulement 4% de l'artificialisation en France. Hein, donc c'est
le logement collectif.
Le logement individuel, c'est 64%. Donc les maires mettent en avant l'artificialisation, mais en fait c'est plutôt le logement individuel hein, qu'il faut pourchasser pour cela.
Pourchasser le logement individuel,
enfin,
ça veut revenir sur l'idée d'Emmanuel Wargon que la maison individuelle c'est décidément un rêve qu'il faut oublier.
Ça artificialise et ça à cause du transport carboné. Donc du point de vue environnemental, c'est après il y a d'autres raisons. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais du point de vue strictement de la transition écologique, ça marche pas. Après, donc on ne peut pas dire simplement on ne construit pas du collectif à cause de zéro artificialisation, c'est probablement pas vrai parce que c'est beaucoup plus efficace au contraire en termes d'occupation du sol. Maintenant, on est un peu dans un cercle un peu bizarre où on veut augmenter l'offre pour faire baisser les prix et ainsi redonner du pouvoir d'achat et redresser la demande. Donc c'est une manœuvre un peu indirecte. On a des promoteurs qui ont des stocks. Si ces stocks doivent être écoulés, ça doit être un prix plus bas et donc on s'attend quand même à ce que les prix baissent sur ce stock.
Mais pas assez vite.
Ce qui permettra de réenclencher de la demande en fait. Alors les prix baissent un peu et en termes réels, si on déflate par exemple par le revenu disponible ou par les prix à la consommation, c'est de l'ordre de 8%, c'est quand même pas du tout négligeable.
Non, c'est pas négligeable.
Et maintenant on a des salaires qui augmentent plus vite que les prix. Et on a des taux d'intérêt qui se stabilisent. Donc on a tous les éléments là pour que la demande se redresse, la demande donc dans le parc privé se redresse.
C'est la grande idée aujourd'hui des professionnels de l'immobilier qui disent oui, les taux vont baisser. Et d'ailleurs, Marie-Cœur de Roy nous disait ce matin, elle avait des informations sur le fait que les exigences en apport personnel des banques commencent à se calmer un peu.
Bon. Oui, on voit un peu du frémissement. On voit les banques qui se remettent à s'intéresser aux prêts immobiliers. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'elles elles ont été un peu prises en étau entre le renchérissement de leurs passifs et la hausse des taux qu'elles pouvaient passer à leurs clients. Donc,
on est d'accord. On est trop nombreux en ville, c'est plus viable, notamment en Île-de-France, me dit un auditeur. 3 minutes 40. Alors, Sylvie Matera, c'est le grand bingo de l'information économique de l'année. Qui va tirer le premier pour baisser ses taux? Quand? De combien de points de base? Alors là, ça y est, là, maintenant, on nous sort la Nouvelle-Zélande qui, probablement, dans 10 jours, pourrait donner le signal. On parle de banques centrales de pays relativement importants, même si la Nouvelle-Zélande n'est quand même pas un pays comparable, effectivement, à la zone euro ou aux États-Unis. D'autres disent que c'est la Banque Nationale Suisse qui va commencer. La BNS fait toujours un peu les choses différemment des autres. Et puis, on commence même à nous dire, mais non, en fait, la BCE va précéder la Fed. Et vous allez voir, la BCE, elle va s'y mettre dès le mois d'avril, alors que la Fed, ce sera probablement au mois de juillet, parce que on a aujourd'hui des chiffres sur l'inflation en zone euro qui ont pris une tendance qui, a priori, devrait justifier cette... Voilà.
On joue pas, faut quand même pas exagérer. Les banquiers centraux sont des gens très très sérieux et c'est pas une décision qui est prise en l'air, c'est vraiment en lien avec l'inflation et la croissance, c'est vraiment l'articulation inflation-croissance. Et donc quand on dit que les taux vont peut-être baisser, c'est que l'inflation a commencé et sur une tendance baissière. quand on garde sur plusieurs mois, c'est sur une tendance baissière, et que par ailleurs on a des impacts, ça commence sur la croissance, enfin le niveau des taux commence à peser sur la croissance. Donc quand on vous dit que finalement la BCE pourrait intervenir plus tôt que la Fed, c'est qu'on voit que la croissance en zone euro commence à s'essouffler très sérieusement.
Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis.
Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, où effectivement la croissance a pas l'air de, enfin, se maintient à des niveaux très corrects, où l'emploi est totalement satisfaisant. Il faut bien voir que la Fed a deux indicateurs, hein, c'est l'inflation et l'emploi, contrairement à la BCE. Donc aux États-Unis, la situation ne paraît pas nécessiter une intervention immédiate. D'ailleurs, les prévisionnistes prévoient maintenant simplement une intervention peut-être à l'été, et moins de baisse qu'anticipée antérieurement. En revanche, la BCE, on voit que effectivement les prix sont vraiment sur une tendance baissière et que la croissance commence à traîner des pieds. Enfin, on a bien vu, on évoquait en début d'émission le fait que le budget français a été fait sur une prévision de croissance qui a dû être révisée pour tenir compte de la baisse de cette croissance. Donc en fait, peut-être maintenant, les banquiers centraux ont été pas mal critiqués pour être intervenus trop tard en matière de hausse des taux.
Trop tard et trop rapidement.
Donc maintenant, je pense qu'ils auront à cœur d'intervenir au bon moment. Cela étant, c'est pas une science exacte, donc c'est pas évident d'intervenir au bon moment. Je pense qu'on veut aussi éviter les politiques de stop and go, c'est-à-dire d'intervenir trop vite pour revenir dans l'autre sens après. Et donc, mais maintenant, je pense qu'effectivement, au bout de plusieurs mois, quand on verra que la croissance continue à diminuer et que l'inflation baisse, ça sera effectivement le moment pour agir sur les taux. Mais je vois pas, enfin, à titre totalement personnel, c'est que mon avis, je vois pas tellement beaucoup d'actions d'ici, juste avant l'été.
Juste avant l'été. Mais c'est qu'à partir du moment où on décide de desserrer la politique monétaire, ça fera baisser l'euro. Et une baisse de l'euro, c'est inflationniste.
C'est pas faux.
C'est toujours bon. C'est pas une science exacte. En tout cas, merci d'avoir été là pour évoquer tous ces sujets. C'était aujourd'hui Agnès Benassi-Guéret, Sylvie Matera et Robin Rivaton.